7h.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
Marion Kazanov.
Et Julien Coquel-Rohem pour le journal. Bonjour Julien.
Bonjour Marion. À la une, faut-il s'attendre à des frappes américaines en Iran dans les prochains jours? La question revient en boucle alors que Donald Trump se dit mécontent des négociations sur le nucléaire avec Téhéran. Dans le même temps, la contestation écrasée dans le sang en janvier reprend dans les universités iraniennes, des étudiants conscients du danger mais déterminés, vous l'entendrez. À la une également ce matin, le sursis accordé par la Cour suprême israélienne qui gèle temporairement l'interdiction de 37 ONG dans la bande de Gaza. Dans ce journal, on parle aussi du Soudan du Sud et de cette alerte d'un comité d'experts de l'ONU. Ils accusent les dirigeants du pays de le conduire vers une guerre à grande échelle et puis chanter pour montrer la vie réelle des patients atteints de maladies rares en cette journée internationale qui leur est consacrée. Reportage à Pékin avec un groupe de musique loin des clichés.
Ce serait formidable que les Iraniens négocient de bonne foi, mais nous n'y sommes pas vraiment.
Les mots de Donald Trump hier au lendemain du troisième cycle de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis pour tenter de trouver un accord sur le nucléaire. Des discussions qui doivent continuer lundi, mais le président américain prévient déjà, il n'est pas très content de la façon de négocier des Iraniens. Il affirme qu'il n'a pas encore pris de décision finale sur d'éventuelles frappes. Mais le ton monte, avec notamment l'appel du chef de la diplomatie américaine aux citoyens américains. Américains présents en Iran, ils doivent, dit-il, quitter le pays immédiatement, Vincent Sourio.
Dans son communiqué, Marco Rubio répète qu'aucun Américain ne devrait voyager en Iran sous quelque prétexte que ce soit. Et il appelle les Américains qui se trouvent en Iran à quitter le pays immédiatement. Aucune mention d'une possible intervention militaire. Le département d'État insère cet avertissement dans un texte relatif à la diplomatie des otages, dans lequel Marco Rubio désigne l'Iran comme un État pratiquant la détention arbitraire. Depuis des décennies, écrit-il, l'Iran a emprisonné des Américains innocents ainsi que des citoyens d'autres pays afin de les utiliser comme un moyen de pression contre d'autres nations. Cette pratique répugnante doit cesser. Et si ce n'est pas le cas, conclut-il, nous serons contraints d'envisager des mesures comme la restriction géographique des déplacements. Autrement dit, l'interdiction d'utiliser un passeport des États-Unis vers, à travers ou en provenance de l'Iran. Vincent Sourio, Washington RFI.
Et les États-Unis qui recommandent aussi au personnel non essentiel de leur ambassade à Jérusalem de quitter Israël. Donald Trump a de nouveau exigé hier que l'Iran n'effectue aucun enrichissement d'uranium, alors que de son côté, le chef de la diplomatie omanaise fait état d'une percée dans les discussions. Téhéran accepterait, selon lui, de ne pas stocker d'uranium enrichi.
Des négociations Iran-États-Unis sur le nucléaire, même si les menaces de Donald Trump de frapper de nouveau le pays ont commencé en janvier face à la répression de la contestation.
Les milliers de manifestants ou de simples passants tués par le régime semblent avoir depuis disparu des préoccupations américaines. Le bain de sang du mois de janvier avait mis un brutal coup d'arrêt au mouvement de colère, mais depuis près d'une semaine, de nouvelles manifestations ont secoué les universités. La présidente de l'association We Are Iranian Students, Aïda Tavakoli, se dit surprise d'une reprise aussi rapide. Elle nous raconte la détermination des jeunes malgré le danger.
Les étudiants savent qu'en cas d'arrestation, les prisons sont devenues aujourd'hui des abattoirs et que la rapidité avec laquelle on peut se faire exécuter par pendaison est absolument inimaginable. Et malgré tout, ils ont repris les contestations. Nous, quand on a parlé avec eux, ils nous disent « mais en fait, on ne reviendra plus jamais en arrière ». Ce qui s'est passé les 8 et les 9 janvier, c'est impardonnable, c'est gravé dans notre chair, dans la mémoire collective de notre pays. Et jamais on pardonnera ce régime, jamais il retrouvera de la légitimité à nos yeux. Et donc ils nous disent, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent qu'ils ne nous ont pas déjà fait? On ne peut plus avoir peur, on ne peut plus rentrer chez nous et faire semblant de continuer une vie qu'on n'a pas, de faire des études alors qu'on sait qu'on ne trouvera pas de boulot, faire semblant qu'on va pouvoir se marier avoir un appartement ou avoir des enfants parce qu'on sait que de toute façon, on n'aura pas les moyens de le faire et que nos enfants seront en danger aux mains de ce régime. Enfin, voilà, on est jeune, on veut une vie digne, on n'a pas d'autre choix que de continuer à se battre jusqu'à la liberté.
La présidente de l'association We Are Iranian Students, Aïda Tavakoli, jointe par Oriane Verdier.
Un sursis pour les 37 ONG qui devaient dès demain cesser leurs activités dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.
Alors qu'elles s'étaient vues refuser leur demande d'agrément selon les nouvelles procédures mises en place par le gouvernement israélien, la Cour suprême israélienne a gelé temporairement cette décision hier, sans trancher sur le fond. Médecins sans frontières fait partie des ONG toujours menacées. L'organisation avait même reçu l'ordre de mettre fin à ses activités aujourd'hui. Mais dans la bande de Gaza, son travail reste essentiel, pour ne pas dire indispensable. Reportage dans une clinique de MSF dans la ville de Gaza. Rami El-Megari sur place et Frédéric Misselin à Jérusalem.
Dans la ville de Gaza, la clinique de Médecins sans frontières reçoit près de 200 patients par jour, essentiellement des cas de traumatologie après 2 années de guerre. Mohamed a 14 ans, sa cheville a été écrasée après un bombardement. Il est soigné par MSF depuis plusieurs mois, sa mère Nema espère que cela pourra continuer.
C'est une catastrophe majeure si ce travail s'arrête. Leur travail humanitaire est très utile. Ça aide mon fils, bien sûr, mais les autres patients, les nécessiteux. J'adresse un message au monde entier. Il faut que MSF reste à nos côtés et nous aide.
Hunter McGovern est le coordinateur de la clinique. Il explique que depuis le cessez-le-feu, le travail des médecins a évolué, mais reste plus que jamais nécessaire pour les Palestiniens.
Aujourd'hui, la situation est préoccupante concernant les brûlures, par exemple. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans des abris très rudimentaires et qui cuisinent avec des moyens très basiques, dans des espaces très réduits. Ces feux de cuisine représentent un grand danger. Donc dans cette clinique, nous soignons beaucoup de brûlures, notamment sur les enfants. MSF fournit des services qui sauvent des vies. Si on arrête, ce sera terrible ici.
Les ONG menacées ne savent pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Rami El-Megari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Et à ce sujet, ne manquez pas notre grande invitée internationale dans quelques minutes avec vous, Marion Kazanov.
Oui, la responsable des opérations d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza, Claire Nicolet. Elle sera en ligne avec nous dans un quart d'heure.
Ah, et dans l'actualité également, en bref, le soutien des États-Unis au Pakistan. Washington dit soutenir le droit du pays à se défendre. Après qu'Islamabad a déclaré hier la guerre aux talibans qui dirige l'Afghanistan. L'armée pakistanaise a bombardé hier plusieurs grandes villes afghanes au lendemain d'une offensive lancée par Kaboul à la frontière. L'AFP fait état ce matin de 2 fortes explosions entendues dans la ville afghane de Jalalabad.
C'est un constat alarmant pour le Soudan du Sud.
La commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud a présenté hier son rapport annuel et ses 3 experts indépendants dressent un tableau inquiétant de l'année qui vient de s'écouler. En 2025, les combats ont repris dans plusieurs régions, remettant en cause l'accord de paix de 2018, et les violations des droits humains ont très gravement augmenté également. Florence Mietto, les experts accusent les dirigeants sud-soudanais de conduire le pays vers une guerre à grande échelle. Ils alertent sur le risque d'atrocités de masse.
Violences sexuelles normalisées, familles brûlées vives dans leurs maisons lors de frappes aériennes, corruption toujours plus installée, le tableau est accablant. Formée il y a 10 ans en pleine guerre civile, la commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud estime que le pays se trouve à nouveau à un carrefour dangereux. Si depuis 1 an, toutes les parties au conflit commettent des violations, c'est le camp du président Salva Kiir qui est pointé du doigt. Les experts dépeignent comment le parti au pouvoir a provoqué des affrontements avec les forces d'opposition du vice-président Riek Machar dès février 2025. Ce dernier a été arrêté en mars et est actuellement jugé par une cour spéciale à Djouba aux côtés de 7 autres membres de son parti. Un procès entaché selon les experts, de violations incompatibles avec l'indépendance de la justice et les garanties d'un procès équitable. Alors que la reprise du conflit a déplacé plus d'un demi-million de personnes, les experts estiment que l'organisation d'élections dans le contexte actuel est irréaliste. Pour eux, seul un retour à l'accord de paix permettrait d'éviter que, je cite, « le Soudan du Sud reste englué dans des cycles récurrents de violence, d'instabilité et de violations massives des droits de l'homme ». Florence Mietto, Djouba, RFI.
RFI 7h09 à Madrid, en Espagne. Le débat sur un possible retour au pays de l'ancien roi Juan Carlos.
Il avait abdiqué en 2014, cerné par des affaires de corruption, avant de s'exiler aux Émirats Arabes Unis à l'été 2020. Mais la publication de documents sur le coup d'État avorté de nostalgiques du franquisme en 1981 a mis cette semaine en lumière le rôle décisif de Juan Carlos pour défendre alors la démocratie. Le leader de l'opposition a demandé dans la foulée qu'il puisse revenir finir sa vie en Espagne. Le gouvernement Sanchez ne s'y oppose pas, mais qu'en pensent les Espagnols eux-mêmes? Reportage à Madrid, François Musso.
Dans la rue, chacun sait tout de ce roi émérite, admiré pour ce qu'il a fait le 23 février 1981, en stoppant net une tentative de putsch, mais très mal considéré depuis qu'on sait qu'il a caché une fortune en Suisse de 100 millions d'euros, un délit qui l'a obligé à se réfugier aux Émirats Arabes Unis en 2020. Peut-il revenir aujourd'hui? Doit-il revenir? Et dans quelles conditions? Tout le monde a une opinion sur le sujet. Elisabeth, étudiante de 24 ans en psychologie, se montre plutôt conciliante.
C'est très compliqué. C'était un coureur de jupons et puis il a provoqué plein de polémiques. S'il est hors d'Espagne, ce n'est pas pour rien. Mais s'il veut revenir pour passer ici les dernières années de sa vie, moi, ça ne me paraît pas si mal.
Tout le monde ne se montre pas aussi compréhensif à l'égard de ce roi. Il a 88 ans, il est fatigué, il revient de temps en temps en Espagne, mais y revenir de manière permanente, c'est une autre affaire. Maria Eugenia, une professeure d'histoire à la retraite.
Personne ne reproche rien au roi pour son rôle le 23 février 1981. Ce que nous, les Espagnols, reprochons au roi, c'est qu'il a triché. Il a plein d'argent dehors et il l'a obtenu illégalement. Et s'il veut revenir, il devra régulariser sa situation en Espagne.
Revenir en Espagne, rester en exil, finalement la décision reviendra à l'actuel roi, Philippe VI. Un vrai casse-tête pour lui. Il sait qu'un retour de son père ne va pas contribuer à améliorer l'image de la monarchie. François Musso, Madrid RFI.
Et puis Julien, c'est aujourd'hui la journée internationale des maladies rares.
Pour attirer l'attention sur les quelques 300 millions de personnes qui en souffrent à travers le monde, parfois sans traitement, des patients qui eux-mêmes choisissent parfois de donner de la voix pour montrer qui ils sont au-delà de leur diagnostic. Exemple en Chine, ce matin, avec un groupe de musique rencontré par Cléa Broders à Pékin.
Le groupe 8772 est composé de musiciens dont les corps sont fragiles, mais sur scène, Su Jiayu, le bassiste du groupe, nous explique qu'ils veulent surtout montrer des vies bien réelles, loin des clichés ou de la compassion.
Au lieu d'expliquer les maladies rares avec des images ou des chiffres, nous pensons que la musique est plus directe. Montrer nos vies telles qu'elles sont aide le public à mieux nous comprendre et à nous accepter.
Le groupe existe depuis 2015 et dès leur début, ils ont compris l'impact que leur musique pouvait avoir.
Lors de notre premier concert, une personne atteinte de paralysie cérébrale nous a dit qu'elle avait eu l'impression d'avoir vraiment vécu, comme si nous avions laissé quelque chose derrière nous. Cela nous a profondément marqué.
C'est un moment qui a donné un sens nouveau à leur projet, car leur ambition n'est pas seulement de parler des maladies rares, ils veulent renverser le regard.
Ce que j'espère surtout, c'est que les gens voient que la communauté des maladies rares peut aussi donner de la force aux autres. Que la vie garde de l'énergie, de l'élan et de l'espoir. Rien de grandiose, juste cela.
Montrer que la fragilité peut aussi produire de la force. Créer, monter sur scène, partager leur musique, simplement, comme tout le monde. Et rappeler ceci, ils ne sont pas rares, ils sont là. Cléa Broders, Shoshian Yuan, Pékin, RFI.
Et de retour à Paris, il est 7h13. C'est à vous, Marion Cazeneuve.
Et c'était le journal de Julien Coquel-Rohem. Tout de suite, place au sport. Avec vous, Babacar Diarra. En football, Lens laisse encore échapper des points en Ligue 1.
Après le nul d'hier soir, 1-1 à Strasbourg en ouverture de la 24e journée, ça fait 1 point sur 6 possible pour les 100 et or. Ça aurait même pu être pire parce que les Alsaciens menaient avant la superbe égalisation du Malien Mamadou Sangaré. Sa reprise de volée a sauvé les meubles sans effacer totalement la frustration de Lensois. Pourtant, entreprenant en fin de match, Mamadou Sangaré y a cru jusqu'au bout.
On a vu que il y avait beaucoup d'occasions, on pouvait gagner ces matchs. On est un peu frustré au vu de la physionomie du match, pardon. On pouvait vraiment gagner ces matchs, on a eu vraiment de bonnes occasions et bon, ça fait partie du jeu. On a un match important qui nous attend ce jeudi contre Lyon, donc on va regarder ce qu'on a fait de bien et ce qu'on n'a pas fait de bien. On va bien bosser pour pouvoir bien se préparer contre Lyon.
Le Malien Mamadou Sangaré au micro de Ligue 1 Plus, il évoque le match contre Lyon. Ce sera en quart de finale de la Coupe de France jeudi soir.
Après ce nouveau faux pas lensois, le Paris Saint-Germain peut prendre 4 points d'avance en tête du championnat de France.
Les Parisiens se déplacent en Normandie pour défier Le Havre, 13e sans Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé ou encore Joao Neves. Il y a souvent du monde à l'infirmerie du PSG. Ça irrite l'entraîneur espagnol Luis Enrique.
L'année dernière, ça a été une année très intense et cette saison, on a payé les prix clairement de ce qu'on a fait l'année dernière. Pratiquement seulement 3 semaines de vacances, Ce ne sont des machines, ce sont des personnes. Cette session a été particulière parce que la dernière session a conditionné Clermont. Et il faut s'adapter parce que tu n'as aucune possibilité d'avoir tous les joueurs. Aujourd'hui, j'ai fait l'exercice de voir combien de fois on a joué les mêmes 11 de départ de la finale des champions. Aucune fois on a joué avec les 11.
Le Havre PSG au stade Océane, coup d'envoi 20h05, temps universel.
Dans les autres pays européens, l'un des chocs du jour se déroulera en Allemagne avec le classiqueur.
Borussia Dortmund, Bayern Munich. Un duel entre les deux leaders de Bundesliga, séparés par 8 points quand même au classement. Le Bayern peut plier les derniers espoirs de sacre du club de la Ruhr qui n'a plus perdu en championnat depuis octobre. Problème, c'était justement face aux Bavarois. Pour savoir si le Guinéen Serhou Guirassy et ses coéquipiers pourront renverser la tendance. Rendez-vous à 17h30 TU.
En Liga espagnole, le Barça, leader, reçoit Villarreal, troisième pour le compte de la 26e journée.
En cas de victoire, les Blaugrana pourraient mettre la pression sur le Real Madrid et les reléguer provisoirement à 4 points avant leur match de lundi. Mais Villarreal est un adversaire à prendre au sérieux, à l'image de la forme de son milieu sénégalais Pape Gueye, encore décisif le week-end dernier. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, s'attend à un très gros test.
Quand je repense au match aller à Villarreal, je pense que c'était une victoire chanceuse. On a perdu beaucoup de ballons et eux en face, ils exploitaient parfaitement chaque situation de contre-attaque. Donc il faut que l'on soit très attentif, on doit davantage garder le ballon, faire moins d'erreurs et puis surtout dérouler notre jeu. C'est notre objectif.
And of course we have to play our game. This is what we want to do.
Barça Villarreal, coup d'envoi 15h15 TU.
Babacar, on termine avec du basket et le héros de l'équipe de France, Sylvain Francisco, décisif hier soir.
Pour sa première en tant que capitaine, le meneur de Kaunas a délivré les bleus du Bourbier hongrois à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. Sur la dernière action du match, Francisco a envoyé un shoot à 3 points pour verrouiller un succès étriqué 74-71. Étriqué mais nécessaire pour une équipe de France qui affiche désormais un bilan de 2 victoires et 1 défaite avant de rejouer la Hongrie dimanche, mais cette fois à domicile dans la salle Antares du Mans.
Et Babacar Diarra pour le Journal des Sports. Sur l'information ce matin en Chine, ce mois-ci, 2 journalistes ont été arrêtés après avoir publié un article sur des faits de corruption au Sichuan, province du sud-ouest. Depuis, la publication de Liu Hu et de Wang Yijiao est introuvable sur Internet. Leur arrestation illustre la situation des derniers journalistes d'investigation exerçant encore en Chine. Lila Olkinwara et Carlota Morteo.
Diffusion de fausses accusations et opérations commerciales illégales, telles sont les charges retenues contre Liu Hu et Wu Yingzhao. Un classique de la politique chinoise de répression des journalistes pour Alexandra Bilakowska, chargée de plaidoyer de Reporters sans frontières en Asie-Pacifique.
C'est exactement le type d'accusation portée contre tous les journalistes d'investigation ou ceux qui publient des enquêtes. Si vous voulez être enregistré comme un média en Chine, alors il faut accepter de devenir un média d'État ou alors se plier au traitement des seules informations autorisées par l'État ou à la censure. Liu Hu et Wu Yingzhao payent le prix d'être journalistes indépendants.
Ce n'est pas la première arrestation pour Liu Hu, un vétéran du journalisme d'enquête en Chine, l'un des 100 héros de l'information de RSF en 2014. En 2013 déjà, après avoir enquêté sur de hauts gradés de l'administration chinoise qui se serait enrichi lors de la privatisation d'entreprises étatiques, il avait été arrêté et emprisonné pendant 1 an. Cette fois-ci, avec Wing Cao, journaliste d'investigation et photographe freelance, il publie sur le réseau WeChat un article sur des faits de corruption dans le Sichuan. Le titre, le secrétaire du parti d'un canton du Sichuan qui, par le passé, poussa un professeur à se donner la mort, mène aujourd'hui des entreprises à la banqueroute. Après la publication, les 2 journalistes reçoivent un message de la commission disciplinaire du parti communiste dans le Sichuan. Je cite, « Ce genre d'affaires doit être porté à la connaissance des autorités chinoises, pas publié en ligne. Ils sont arrêtés quelques jours plus tard. Signe de la politique répressive du parti que déplore Alexandra Bilakowska. »
Ce qui est scandaleux, c'est que Xi Jinping dit sans cesse que la règle, c'est de lutter contre la corruption. On l'a vu ces dernières années avec de grandes campagnes au sein du parti. Mais lorsqu'une enquête indépendante n'est pas liée à la bataille politique entre Xi et ses opposants, les journalistes qui en sont à l'origine sont immédiatement arrêtés pour leur travail.
Une situation irrespirable, le pays est la plus grande prison du monde pour les journalistes, selon Alexandra Bilakowska de RSF.
Il y a environ 120 journalistes emprisonnés en Chine. Parmi eux, beaucoup sont enfermés depuis longtemps. Ça veut dire que peu de journalistes ont été arrêtés ces dernières années. Mais surtout qu'il n'y a plus personne qui ose enquêter en Chine. Moins de journalistes à arrêter. Donc si des journalistes enquêtent et signent de leur nom dans le pays, c'est plus qu'un acte de bravoure.
En 2025, au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Chine est 178e sur 180.
Menace sur l'information avec Lila Holkin-Wurra. À Gaza et en Cisjordanie, les organisations d'aide humanitaire obtiennent un sursis. La Cour suprême israélienne a suspendu in extremis leur expulsion de ces territoires palestiniens. Une trentaine d'ONG, 37, avaient auparavant jusqu'à dimanche pour les quitter. MSF, Médecins sans frontières, devait même le faire dès aujourd'hui, samedi. Bonjour Claire Nicolet.
Bonjour.
Responsable des opérations d'urgence, de MSF à Gaza, vous êtes en ligne d'Amman en Jordanie. Vous étiez à Gaza il y a peu. Le départ contraint de votre personnel international est donc suspendu, différé le temps d'un examen judiciaire complet. Est-ce que vous êtes soulagé ce matin?
Ben, malheureusement, on est que moyennement soulagé puisque nous-mêmes nous sommes sortis avant-hier de la bande de Gaza suite à cette décision de devoir terminer nos activités selon les autorités israéliennes le 28. Donc on avait notre mouvement depuis Gaza en direction d'Amman il y a deux jours. Donc cette décision est intervenue juste après notre sortie et malheureusement cette décision ne veut pas forcément dire qu'on pourra y retourner. Donc on est évidemment content d'avoir un sursis. Ceci étant, les conséquences sont déjà là.
Et donc ça veut dire quand vous dites notre sortie, c'est tout le personnel international de MSF qui est déjà parti de l'enclave palestinienne ?
Tout à fait, jeudi, il y avait 26 personnels internationaux qui ont quitté la bande de Gaza et c'était l'intégralité des équipes étrangères qui étaient encore à l'intérieur de Gaza.
Alors vous y étiez, vous le rappeliez, sur place il y a quelques jours. À quoi ressemble aujourd'hui la situation sur le terrain ?
La situation sur le terrain est toujours catastrophique, bien sûr, parce que déjà la destruction, comme on le sait, est quasi totale, hein, puisqu'on parle de plus de 80% de la bande de Gaza qui est détruite. Le système de santé est toujours presque, on peut dire, à l'abandon, ou en tout cas vraiment on a du mal à répondre aujourd'hui aux besoins. Les gens vivent toujours dans des conditions terribles et malheureusement même la violence continue, les bombardements continuent. Donc même si on est dans un cessez-le-feu, on a vu très peu finalement d'amélioration sur ces derniers mois dans la bande de Gaza.
Et alors comment parvenez-vous, vous racontez un système de santé à l'abandon, des conditions terribles de travail, comment parvenez-vous à venir en aide à la population aujourd'hui? Comment on peut parler de débrouille aujourd'hui?
Oui, alors heureusement, on a quand même un énorme soutien, on va dire, Médecins sans frontières à la population, dans la mesure où on a 20 centres de santé et hôpitaux qu'on soutient jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème de cette décision, c'est que ça nous a déjà touché, puisque depuis le 1er janvier 2026, on n'a plus le droit d'amener de matériel médical ou de médicaments par rapport à cette décision donc d'être arrêté en temps de ne plus être enregistré en tant que MSF par les autorités israéliennes. Donc on est effectivement en train de se débrouiller, en train d'imaginer comment on va pouvoir encore continuer ces activités avec l'impossibilité de faire venir du matériel, avec l'impossibilité de faire venir probablement, on verra bien comment cela se déroule, mais probablement du personnel international. Donc on survit effectivement dans cet environnement en essayant bien sûr d'apporter des soins de qualité à la population gazaoui et puis aussi énormément d'eau puisqu'on fait aussi de la production et de la distribution d'eau pour environ 300 000 personnes par jour. Donc ce n'est pas négligeable, mais effectivement petit à petit c'est de plus en plus difficile pour nous de venir en aide à la population.
Mais vous rappeliez qu'il y a malgré le cessez-le-feu des bombardements très fréquents 7 morts au moins hier à Gaza, selon la défense civile palestinienne. L'armée israélienne est toujours présente aussi. Elle contrôle environ la moitié du territoire. Les Palestiniens vivent donc dans un espace réduit. Claire Nicolet, quelles en sont les conséquences humanitaires ?
Effectivement, ce point-là est absolument essentiel, il faut le comprendre. Effectivement, c'est même plus à peu près 45% de la bande de Gaza qui, comme on le sait, est déjà très petite pour cette population de plus de 2 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, ils sont encore plus resserrés, ce qui veut dire que évidemment, il y a des conséquences en termes d'hygiène, de conditions de vie. Les gens sont vraiment ramassés finalement tous au même endroit, dans des tentes ou même pas forcément dans des tentes, dans ce qu'ils ont pu trouver. Encore les conditions météorologiques de la semaine passée a vu beaucoup de destruction de tentes, où ils vivent dans des bâtiments à moitié détruits, avec des murs ou des toits qui leur tombent sur la tête régulièrement. Donc on va dire que les conditions aujourd'hui de vie sont vraiment terribles et on ne voit pas d'amélioration. C'est ça qui est dangereux et qui est difficile, c'est que aujourd'hui il n'y a pas du tout, bien sûr, un mouvement de reconstruction. Il n'y a même pas un mouvement où on a plus d'entrées de tentes de qualité. Donc finalement, on ne voit pas vraiment d'issue positive pour le moment pour cette population.
Et si Israël, pour revenir à cette suspension de votre départ, si Israël veut que vous arrêtiez vos opérations à Gaza, c'est parce que vous n'avez pas transmis la liste de votre personnel palestinien. C'est ce que demande Israël. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Est-ce que vous comptez changer d'avis pour pouvoir rester sur place ?
Alors en fait, on a essayé d'ouvrir un dialogue avec les autorités israéliennes à ce sujet, puisque effectivement, on voulait avoir de plus amples explications sur comment vont être utilisées les données de notre personnel, à qui elles vont être partagées, comment cela sera utilisé, sachant que bien sûr, on sait que Gaza a été un des environnements les plus dangereux pour le personnel humanitaire. Nous-mêmes, le MSF, on a perdu plus de 15 collègues sur ces deux dernières années. Donc aujourd'hui, on voulait un petit peu comprendre comment tout cela allait se passer et nous n'avons jamais réussi à avoir des réponses de la part des autorités israéliennes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas été au bout effectivement de cette démarche.
Israël craint une infiltration de combattants du Hamas dans les rangs, dans des organisations humanitaires comme la vôtre.
C'est en tout cas effectivement ce qu'ils mettent en avant. Après, il faut aussi comprendre que la liste du personnel, ce n'est qu'une partie finalement de la possibilité d'être enregistré, parce que malgré ça, même si on devait donner notre liste de personnel et on ne donnerait de toute façon que les noms des gens qui veulent bien le donner, on ne donnera jamais toute la liste des noms si certains de notre personnel ne veut pas donner ces informations. Et après, il faut comprendre qu'il y a aussi un conseil interministériel qui déciderait en fonction de notre communication publique en particulier si on peut être enregistré. Et comme on le sait, MSF a été assez vocal, a essayé de décrire la situation qu'on voit sur place et donc effectivement on a des tensions certaines avec les autorités israéliennes sur notre communication publique.
Et alors quels sont vos autres recours aujourd'hui pour pouvoir maintenir vos activités ?
Mais aujourd'hui, on est toujours à la recherche cependant de ce dialogue, puisque pour nous, c'est tout de même important qu'on puisse trouver des solutions. Aujourd'hui, on est toujours enregistré auprès de l'autorité palestinienne, et c'est comme ça, et en ce sens-là, qu'on continue à avoir des activités de toute façon dans la bande de Gaza et aussi en Cisjordanie. Ceci étant, le fait de ne pas pouvoir évidemment rentrer de matériel est absolument dommageable, donc on continue à vouloir trouver un terrain d'entente avec les autorités israélienne et on espère pouvoir le faire pour pouvoir continuer de façon non pas optimale, parce que ça a toujours été très compliqué de travailler sur ces dernières années à Gaza, y compris justement sur ce sujet de faire entrer des camions et de faire entrer du matériel, mais au moins qu'on ait cette possibilité-là de continuer à rentrer et à sortir un peu plus librement de la bande de Gaza. Donc on espère tout de même qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente et peut-être cette décision effectivement de la Cour va nous aider à avoir à nouveau des négociations et des discussions avec les autorités israéliennes. Et
Claire Nicolet, responsable des opérations urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza, vous étiez en ligne avec nous d'Amman en Jordanie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio France Internationale ce matin. À suivre sur RFI, le retour de l'actualité africaine.
Écoutez ce samedi l'épopée des musiques noires. Au fil des années, Éric Bibb s'est imposé